On est de retour après une belle nuit de play-off. Trois matchs au programme la nuit dernière. Shai, je te propose qu'on commence avec le plus tardif des trois, le plus disputé peut-être jusque dans les dernières secondes. C'était belle victoire de Dallas qui a été s'imposer sur le terrain des Clippers dans ce Game 2 pour prendre le match 96-93. Pardon. Un match vraiment de play-off à l'ancienne avec une grosse défense énorme où dès qu'une équipe prenait 6 points d'avance, tu avais l'impression que c'était un énorme éclat qu'elle n'allait jamais pouvoir être repris. Qu'est-ce que tu as vu de différent? Qu'est-ce qui a été pour toi la grosse différence du côté de Dallas? Après, on se rappelle de de leur contre-performance ou de leur no-show de la première mi-temps du match 1. Là, c'était une équipe de Dallas complètement différente, j'ai eu l'impression.
Ouais, bah sur l'implication défensive, les efforts, ça n'avait absolument rien à voir. Ils se sont tous donnés beaucoup plus que lors du Game 1. Ça partait de Luka Doncic notamment, on en avait parlé ensemble, du fait qu'il n'avait pas défendu souvent de manière très intelligente par rapport aux joueurs qu'il avait en face. Là, Doncic, le premier, il a très bien défendu. Ça paraît surprenant pour ceux qui le considèrent que comme un joueur offensif. Mais on l'a vu défendre sur Kawhi, qui était de retour d'ailleurs. Petite surprise, il était titulaire et il était là. Plein de séquences où il a défendu très très bien sur Kawhi, notamment dans le Money Time. Et ce regain d'énergie défensive qu'on avait vu sur toute la deuxième partie de saison pour Dallas est venu s'ajouter à une meilleure performance offensive. C'était pas non plus exceptionnel, hein, mais ils ont réussi à bien mêler les deux et c'était suffisant finalement pour battre des Clippers qui, eux, avaient moins de repères, j'ai trouvé, avec le retour de Kawhi. Je dis pas que c'était une mauvaise chose, mais je les ai trouvés un peu moins à l'aise. Et il y a ce run de 14-0 à la fin qui change tout dans le quatrième quart-temps et qui montre que Dallas était plus frais physiquement et mentalement, je trouve, que les Clippers.
Ouais, je partage ton analyse. Effectivement, Luka Doncic, je l'ai trouvé excellent défensivement sur l'homme, en tout cas. Même ouais. Je regardais les stats, il a un contre. Moi, j'en ai vu deux dans le match, donc c'est quand même des choses qui ne sont pas courantes. Je l'ai trouvé très très bon vraiment sur l'homme. On pourra revenir peut-être sur d'autres aspects défensifs où ce n'est pas encore ça. Il finit avec 32 points, 6 rebonds, 9 passes. Mais un match qui a vraiment été serré jusqu'au bout. Et effectivement, je partage ce que tu dis sur les Clippers. Je pense que défensivement, ils ont été au niveau du Game 1, vraiment très physique. Les arbitres ont laissé beaucoup de contacts. Ça, c'était plutôt intéressant, plutôt chouette. C'est sur la fin en fait que ça s'est joué, et sur la fin j'ai trouvé malgré tout que cette équipe de Dallas, elle a eu deux trous complètement fous sur des remises en jeu à la fin, alors que l'écart était fait. Ils prennent 5 points sur deux remises en jeu, vraiment le chrono a même pas le temps de tourner. James Harden qui se retrouve tout seul, incompréhensible le manque de communication des joueurs de Dallas, deux joueurs de Dallas qui sont partis avec le porteur d'écran. James Harden qui se retrouve tout seul, et une dernière remise en jeu plus tard où c'est Kawhi qui se retrouve avec un layup ou un dunk, je sais plus, un layup. Il se retrouve avec un layup, finalement une faute est sifflée finalement après le coach challenge, la faute est annulée. Mais ça quand même c'est, tu sais, enfin voilà, Dallas a gagné, a été prendre un match à l'extérieur, mais ces moments de d'égarement, je trouve quand même un peu inquiétant. Malgré tout, pour Dallas, c'est juste, alors pour être un peu critique avant peut-être de repartir sur le positif du côté des Mavericks, Luka Doncic, on l'a dit, il a été très bon en défense sur l'homme, offensivement, il a été correct, mais je trouve quand même, je le trouve pas serein en fait dans cette série. Je trouve qu'il y a des moments où il essaie de prendre, de placer le dagger, un petit peu le coup de massue, mais de manière répétée à des moments qui sont pas forcément dans les bons timings, avec peu de réussite finalement, même si à la fin il met un 3 points énorme, bien sûr. C'est un très grand joueur, mais sur toute la longueur du match, il y a d'autres moments, je trouve, où il tente ces choses-là. Et il y a des moments où, malgré tout, défensivement, il pénalise quand même les Mavs sur des replis défensifs, notamment. Des moments où il participe pas du tout au repli défensif, et par contre, il participe au fait que les Clippers puissent avoir des paniers un peu rapides. Et moi, je trouve, enfin, ces aspects-là, je vais pas dire qu'ils sont surprenants quand on connaît le jeu de Luka Doncic, mais je les trouve surprenants dans le sens où sur des matchs qui vont se jouer comme ça, là ça se termine à 3 points. Bon, Paul George met un tir à 3 points au buzzer à la fin alors que c'est déjà plié.
Il y a plus 6. Donc,
voilà, le vrai écart c'est 6. Je pense que il y a tout un tas de petites choses comme ça que Dallas peut et doit nettoyer de son jeu si ils veulent vraiment aller le plus loin possible.
Ouais, non, clairement. T'as raison d'insister sur la différence défense sur l'homme et défense collective, parce que Luka sur les stats, elles sont impressionnantes. Hein. Les Clippers ont shooté à 2 sur 17 quand Luka était le défenseur principal.
Ouais, il était excellent.
Donc il a été excellent sur l'homme. Après, c'est vrai, tu as raison sur ces errements-là, mais ça, ils ont quasiment toujours existé pour Dallas depuis qu'il est là. C'est, dire, il apporte tellement offensivement que du coup, c'est vrai qu'on se concentre moins sur cet aspect-là. Mais je te rejoins dans le sens où ils vont avoir besoin d'être quasi parfaits, en tout cas sous leur meilleur visage défensivement, pour avoir une chance de prendre cette série. Là, ils ont quand même repris l'avantage du terrain, c'est pas rien. Mais
Carrément.
les Clippers m'ont pas semblé totalement impuissants, et ils sont capables eux aussi, je pense, d'aller prendre un match à Dallas. Donc, au moins les Mavs ont réagi, parce qu'ils étaient attendus au tournant. Ça restait la question principale. Est-ce que ce qu'on a vu du premier match, c'était bien leur plancher, le pire truc qu'ils pouvaient faire? C'était le cas, je pense. Et là, il y avait quand même du mieux. Alors, c'était pas fantastique, mais quand ça comptait. Et tu reparlais du panier à 3 points de Doncic, il est magnifique. Et derrière, tu vois, il célèbre ça comme
Ouais.
s'il avait fêté un but. Lui, le fan de foot, il a célébré ça pendant 20 secondes. C'était un panier important. Et ils ont su les mettre, ces paniers importants, et faire ce run dont je parlais tout à l'heure, qui était orchestré par Luka, par Kyrie. Kyrie qui fait une super passe décisive pour PJ Washington dans le corner aussi sur le dernier panier de ce run-là. Et le vrai écart, c'est plus 6. C'est un petit peu moins serré qu'il n'y paraît. Les Mavs ont vraiment bien géré, je trouve. Enfin, je dis ça, je repense du coup à ce que tu as dit, et aux séquences où Harden se retrouve absolument tout seul là aussi, et au Kawhi, mais le layup qui a été, où la faute a été retirée ensuite. Soit dit en passant, Jason Kidd, je ne sais pas quel est son taux de réussite sur les challenges, mais toute la saison, j'ai l'impression qu'il a gagné ses challenges.
Ouais.
C'est peut-être
Donc
sa
c'est son
meilleure
staff.
qualité.
C'est son staff, tu sais, il y a quelqu'un qui a la
Ouais.
tablette et qui regarde en direct. C'est effectivement, je pense qu'ils ont quelqu'un qui est efficace dans ce registre.
Ouais, mais bon, voilà, un peu rassurant pour les Mavs, mais ils peuvent faire nettement mieux, bien entendu, et ils doivent faire mieux s'ils veulent aller plus loin que le premier tour, notamment.
Ouais, voilà, après vous le disiez hier avec Antoine, on dit qu'une série de playoffs va pas commencer tant qu'une équipe a pas gagné à
Ouais.
l'extérieur. Là, effectivement, Dallas a récupéré l'avantage du terrain, donc victoire vraiment très importante. Mais je reviens encore sur une dernière action, tu vois, sur la fin, où à un
Ouais.
moment, les Clippers essaient de revenir au score, donc soit de faire faute, soit d'avoir une interception. Ils mettent une grosse pression sur Kyrie Irving et Luka Doncic, et finalement, ils se retrouvent à donner la balle à PJ Washington, qui perd le ballon dans la foulée sous une grosse pression défensive. C'est ces petits errements, je trouve, de manque de jugement en fait, qui m'ont énormément surpris du côté de Dallas, sachant que tu as normalement en Luka Doncic et Kyrie Irving deux joueurs quand même qui sont sûrs avec le ballon et qui ont le QI défensif, pardon, le QI basket nécessaire pour pas faire ces erreurs. Donc malgré tout, voilà, belle victoire de Dallas. Je vous donne quelques stats par ailleurs. Kyrie Irving qui était en galère sur tout le début du match,
Ouais.
énorme défense des Clippers, et finalement qui a participé au run, comme tu le disais, Shai, qui a vraiment décoincé pas mal de situations. Il finit avec 23 points, mais à 8 sur 18 au tir, 6 rebonds, 3 passes. Du côté toujours de Dallas, j'ai l'impression que Jason Kidd est pas sûr de sa rotation. Dans le premier
Ouais.
match, on en avait parlé, je comprenais pas que Josh Green soit rentré si tardivement dans le match. Là, il est rentré plus tôt, mais là, à l'inverse, je me demandais où était passé Dante Exum à un moment où Dallas
Ouais.
tapait un peu dans le mur et se retrouvait à manquer d'adresse à 3 points. Dante Exum qui a joué que 6 minutes. Du côté des Clippers, 22 points, 2 rebonds, 4 passes pour Paul George à 7 sur 14, qui a été bon, qui a peut-être
Oui.
même été un petit peu trop effacé, je pense, dans le jeu des Clippers par moment. Là encore, je pense que tu as raison quand tu dis que le retour de Kawhi Leonard a peut-être un petit peu modifié la donne. Kawhi qui n'était pas lui-même, hein. Honnêtement,
Non.
l'impression visuelle, voilà, on sent qu'il est loin d'être à 100%, finit à 15 points, 7 rebonds. Et Ibaka Zubac, 13 et 12. Et puis un bon match encore, je pense, de James Harden, 22 points, 6 sur 14 au tir, 6 rebonds, 8 passes. J'ai trouvé plutôt bon à nouveau Harden. Je sais pas ce que
Ouais,
tu en as
voilà.
pensé.
À part la maladresse extérieure, mais bon, ça, sur le reste, il a quand même, il a fait son job au niveau du playmaking. Je l'ai trouvé plutôt bien. Kawhi, faut se rappeler qu'il a pas joué les 9 derniers matchs, et que direct, il rentre dans un match intensité playoff, et une série qui est particulièrement intense. Donc je l'ai trouvé pareil, un peu en difficulté, presque plus offensivement que défensivement. En attaque, je l'ai pas senti à l'aise, ce qui est pas hyper étonnant non plus. Pas très adroit non plus, 0 sur 5 à 3 points. Bon, il n'y avait pas beaucoup de temps pour se mettre en rythme, hein. Là, j'espère déjà qu'il s'est pas refait mal quelque part, et que les Clippers pourront compter sur lui sur le match 3. Mais ça va être important qu'il retrouve son niveau, le niveau qu'on lui connaît et qu'on a vu quasiment tout au long de la saison, parce que ça va se jouer sur des petits détails. C'est une série qui est très serrée, de belles équipes. Ça va jouer là-dessus. Petit mot juste sur Russell Westbrook. Ok, il met que 7 points, 2 sur 9. Voilà, on peut dire qu'offensivement, ça pèse pas beaucoup, mais c'est à chaque fois qu'il est sorti que les Mavs ont refait le trou. Au niveau
Il
de
est excellent.
l'énergie, de tout défensivement, je le trouve admirable en fait. C'est-à-dire que oui, ok, c'est pas, il va pas mettre des cartons au scoring, bien qu'il est rentré un panier à 3 points assez important, je trouve.
Carrément.
Après le run là sur le 14-0, il a mis un panier à 3 points ouvert certes, mais important. Voilà, je le trouve admirable et il est indispensable. Et à chaque fois qu'il est sorti, les Clippers ont pris des petits éclats. Dès qu'il est rentré, ça a été positif. Il finit à plus 8 au niveau du plus-minus. C'est pas anodin. C'est pas toujours révélateur, mais là, je pense que c'est pas anodin.
Bah, c'est le meilleur de son équipe sur le plus-minus. Et il finit avec 9 rebonds aussi. Je suis d'accord avec toi. Il a eu un impact énorme. Même défensivement, lui aussi.
Ouais.
Il a été volé des ballons importants. Moi, en tout cas, j'ai pris mon pied devant ce match. À un moment, Grant Hill, qui commentait le match, disait qu'il y avait un parfum de match des années 90 dans cette rencontre. Je partage. C'était vraiment, vraiment un très beau match. On a hâte de voir la suite de cette série. Enfin voilà, on savait qu'elle serait passionnante. Je pense qu'elle risque de l'être tout du long. Allez, je te propose de changer de traverser le pays, d'aller sur la conférence Est avec une énorme performance des Indiana Pacers qui eux aussi sont allés prendre un match à l'extérieur. Victoire 125-108 des Pacers face aux Milwaukee Bucks qui ont été un petit peu, un petit peu ce qu'on craignait. Tu sais, on en avait parlé, Shai, pour le premier match. On s'était dit si Milwaukee laisse les Pacers prendre le match de manière euphorique, ça va être compliqué. C'est un petit peu ce qui s'est passé au match 2 avec notamment un Pascal Siakam incandescent. 37 points, 11 rebonds, 6 passes. Voilà, qu'est-ce que tu as retenu toi de ce match?
Énorme Siakam. Dans la lignée de son premier match, hein, ça avait été le joueur qui avait surnagé dans le game 1. Là, au niveau du schéma de la rencontre, du scénario, ça ressemble. Le début a quand même pas mal ressemblé au match 1 parce que Lillard rentrait tout ce qu'il tentait. Il avait mis 35 points au match 1 en première mi-temps. Là, il en met 26. Mais il finit à 35, si je dis pas de bêtises.
34 hier.
34, voilà. Mais cette fois, les Pacers, comme tu l'as dit, ils ont un peu balayé leur timidité, leur maladresse, et ils ne se sont pas laissés dépasser par l'événement. Ils ont réussi à jouer leur jeu. Il n'y avait plus de complexe, ça a joué vite. Haliburton s'est concentré sur le playmaking. Il a vu que Siakam était vraiment. C'est le joueur qui a connu qui a la plus grosse expérience de playoff du roster. Et là, ça s'est vu. Il a vraiment agi en patron offensif. 37 points, 11 rebonds, 6 passes, il perd pas un ballon, il shoot à 16 sur 23. Et autour, tous ses déliés, presque encore mieux que ce qu'on a pu voir d'eux sur la deuxième partie de saison après le trade de Siakam. C'est un peu comme ça, je pense, qu'ils envisageaient la dynamique de l'équipe avec Siakam. Alors peut-être avec un peu plus de points d'Haliburton qu'en mec 12, qu'en mec 12 cette nuit, mais c'était un super visage des Pacers, très offensif. Ils ont profité des largesses et des difficultés défensives des Bucks qui, cette fois, n'ont pas réussi à casser le rythme adverse et ça s'est payé tout de suite. Et du coup, c'était au niveau chronologique la première victoire de ces playoffs à l'extérieur. Et c'est très positif pour Indiana. C'est un peu plus inquiétant pour Milwaukee qui doit surveiller de très près ce que Giannis va faire au niveau de sa convalescence. Parce que si Indiana joue sur ce mode-là tout le temps, avec des role-players qui sont très bons. T'as Andrew Nembhard qui met 20 points. Alors Miles Turner, c'est plus qu'un role-player, mais lui aussi, il était à l'aise, 22 points. Je suis content d'avoir vu ce visage-là des Pacers. J'avais peur. Tu sais, on a parlé d'Orlando hier, qui n'arrive pas du tout à montrer à être sous sa meilleure version, offensivement notamment. Et j'avais peur que l'Indiana se laisse un peu submerger aussi. Là, on sait au moins qu'il y a un match où ils ont montré qui ils étaient réellement.
Ouais, et alors effectivement, la défense de Milwaukee qui a complètement explosé, qui a pas du tout tenu sur les standards qui doivent être les siens. Et puis de l'autre côté, finalement, les Bucks qui ont été incapables de répondre offensivement aussi à ce que les Pacers se imposaient comme rythme. Donc Damian Lillard, il finit à 34 points à 10 sur 21 au tir, donc c'est correct en fait sur le pourcentage. Il a même pas tant arrosé que ça. Mais derrière, les Bucks ont manqué de solutions. Il y a Brook Lopez qui est deuxième meilleur marqueur du match avec 22. Chris Middleton qui finit à 15 points mais 6 sur 14 au tir. Bobby Portis 14 et 11 rebonds mais 6 sur 16 au tir. Voilà, cette équipe de Milwaukee, c'est un petit peu tout ce qui nous inquiétait malgré tout à la mi-saison, du moins après le la, je vais pas dire que Là, pour le coup, je vais pas mettre tout sur le dos de Doc Rivers. C'est pas ça l'objet, mais c'est un petit peu ce qui nous inquiétait. On se disait, bon, bah, la défense de Milwaukee, c'est plutôt mieux, mais c'est encore fluctuant. Et en attaque, il n'y a toujours pas vraiment un vrai fonctionnement qui cartonne. Bon, là, encore une fois, privé de Giannis Antetokounmpo, quand on sait que c'est la plaque tournante offensivement et défensivement de cette équipe de Milwaukee, c'est pas anormal en fait que Milwaukee ait eu du mal, mais c'est inquiétant par rapport à ce que tu disais. Giannis pourra pas se permettre de manquer trop de matchs, sinon ça risque d'être trop peu trop tard.
Ouais, c'est clair. Ce que disait Doc Rivers à la fin, et c'est plutôt juste, c'est-à-dire que ils ont, une fois passé le bon début de match de Lillard, après ils ont vraiment été en difficulté sur l'exécution offensive. Et ça s'est aussi répercuté après sur le niveau d'effort et d'intensité en défense. Lui, Doc Rivers, pense que c'est l'attaque qui a un peu déconné. Et je suis pas loin pour le coup aussi de penser que c'est vrai, parce que on a parlé des problèmes défensifs. Hein, mais ça c'est, c'est-à-dire que pour Lopez qui met 22 points, il a mis quasiment que des paniers à 3 points. Et il y a que lui et Lillard qui ont shooté et mis des paniers extérieurs cette nuit. Et ça a aussi fait défaut. Ça a traduit une pas très bonne circulation, je trouve, de ballon. Enfin. Toutes ces choses-là qui font que Milwaukee ne peut pas, sans Giannis, prendre à la légère, ou tenir pour acquis une victoire contre les Pacers. Là, on l'a vu cette nuit. Et, du coup, ça montre que cette série va être probablement plus serrée qu'on l'aurait pensé si ça avait été joué en tout début de saison.
Ouais, allez, on retraverse les États-Unis pour aller à l'ouest et monter un petit peu dans les montagnes du côté de Minnesota. Les Wolves qui ont été à nouveau sans pitié avec les Suns, victoire 105-93 de Minnesota, qui continue décidément de me donner tort, et j'en suis ravi au vu de ce qu'ils ont mis en place. Énorme victoire de Minnesota, là vraiment qui a fait le job en allant prendre ces deux matchs contre Phoenix, et Phoenix a trouvé qu'on a senti un petit peu sans réponse. Je sais pas toi ce que tu as vu.
Ah, j'ai adoré le match des Wolves encore. C'est l'équipe que je préfère depuis le début des playoffs, je pense. Parce que c'est deux matchs consistants, avec leur identité, et tout se passe à merveille. Là, c'était un poil différent peut-être que le match 1, parce qu'il n'y a pas eu besoin d'un coup de chaud énorme d'Anthony Edwards. Edwards a été cadenassé. Hein. Ils ont plutôt bien défendu sur lui, les Suns. Finit avec 15 points, 3 sur 15. Il n'était pas dans un grand soir offensivement. Mais du coup, tous les autres sont montés en régime, ils ont été utilisés. Il y a un match, lui, ça fait depuis... Bon, toute la saison, il a été bon. Hein. Mais là, sur ses playoffs, il prend une dimension qui est tout autre, je trouve. Jaden McDaniels, c'est élite en défense et c'est capable de mettre 25 points dans un match de playoff. Donc, le gars n'a pas... Je trouve qu'il a pas de limite. En fait, il arrive à un... Il montre un niveau je trouve, incroyable. 10 sur 17, plus 24 de différentiel. Il n'y a pas besoin d'Edwards, parce que McDaniels et les autres, parce que Rudy a mis ses 18 points, Conley a mis 18 points, ils n'ont pas eu besoin de s'en remettre que à Edwards, parce que les autres ont fait le job, et Phoenix a été absolument sans réponse.
Ouais, tu fais bien de le signaler, parce que McDaniels, qui était l'un des grands absents avec Nasrid des playoffs l'an dernier, qui s'est bêtement cassé la main après un geste d'énervement. Ben ouais, exactement. Et effectivement, là, il a changé la donne sur ce match-là. Ce que je note quand même dans Anthony Edwards, moi, une stat que je trouve vraiment hyper enthousiasmante pour la suite, c'est 8 passes décisives. C'est lui le meilleur passeur du match. Certes, 3 sur 12 au tir, mais c'est intéressant, je trouve, à ce stade de son développement, de voir que quand il est dans le dur, il peut trouver d'autres manières d'aider son équipe, notamment en attaque. Gros match, effectivement, à nouveau de Minnesota. Je parlais allez, je vais donner les stats de Rudy quand même, qui termine avec 18 points. 9 rebonds, 2 passes. Qu'est-ce qui était intéressant encore sur ce match-là d'un point de vue statistique? Oui, Mike Conley, 18 points, qui était très bon en attaque, lui aussi. On a vraiment pas senti du tout les Wolves en danger, en fait, tout du long de ce match. Le trio de Phoenix qui... En fait, c'est là, en fait, plus ça va, plus on se demande si c'est un vrai Big Three, parce qu'en fait, on en avait parlé un petit peu. Je dis pas que Kevin Durant peut pas prendre feu hein, dans un match et faire un match à 40 points. Ça reste un joueur, bien sûr, de très très haut niveau, mais plus ça va, plus les matchs passent, plus j'ai vraiment le sentiment qu'il est sorti de son prime, et je sais pas s'il a la capacité à porter cette équipe sur ses épaules comme il a pu le faire par ailleurs. Devin Booker qui finit à 20 points, 6 sur 13, Bradley Beal qui termine à 14 points, 6 sur 17, Kedi 18 points, 6 sur 15. Rendement tout simplement pas suffisant pour le Big 3, sachant que l'équipe a été construite totalement autour d'eux. Et donc, du coup, là, c'est pas la peine d'aller chercher, de dire, ouais, mais les role-players, faut qu'ils fassent leur job. De toute façon, là, ils font globalement leur job, les role-players de Phoenix.
Ouais, c'est ça. Après, pendant la saison, t'avais un mec comme Grayson Allen qui, si l'un des
C'est
membres du
vrai.
Big Three était absent ou pas, il a fait des très très grosses prestations, notamment à 3 points. C'est le meilleur shooter de la ligue au pourcentage cette saison. Là, Grayson Allen, son premier match, il est cauchemardesque. Et le match 2, il vient de se blesser à la cheville. On ne sait pas du tout s'il va pouvoir être présent au prochain match. Il a joué 17 minutes là, cette nuit.
Je pense
Et.
qu'il s'est même reblessé parce qu'en fait, dans le match
Ouais.
1, déjà, il s'était blessé à la cheville et j'ai l'impression
Oui.
qu'il a réaggravé sa blessure au bout du compte.
Ah, c'est ça, donc il ne peut pas donner le meilleur de lui-même et c'est un problème si derrière les trois Lascars n'arrivent pas à faire mieux que 18 sur 45 en cumulé, aucun des trois qui prend vraiment les responsabilités au moment où il faut les prendre. Et bah, derrière, une équipe comme Minnesota qui est sûre d'elle défensivement et qui a aussi des armes en attaque, on les voit là en ce moment, c'est pas suffisant pour embêter une équipe comme ça. Et bon, maintenant la série va partir à Phoenix, il n'y a rien de joué. Ils sont tout à fait capables de gagner des matchs à domicile, mais Minnesota là ressort vraiment des 2 premiers matchs, je trouve, avec un ascendant qui me paraît assez fort. J'ai bien aimé la déclaration d'Anthony Edwards après le match. Il a dit, ils ont Kevin Durant, mais nous on a Jaden McDaniels. Et je trouve que ça résume bien le truc parce que sur le papier on pourrait rigoler, on dirait Jaden McDaniels c'est personne dans l'histoire de la ligue, et Kevin Durant c'est Kevin Durant. Mais c'est-à-dire qu'ils ont lui, ils ont Anthony Edwards dont on a vu ce dont il était capable dans le premier match, mais ils ont aussi des mecs comme ça. Jaden McDaniels, qui est pas une star, mais qui est en train de montrer une palette assez incroyable. Et à souligner aussi, parce que je traîne un peu sur les réseaux autour du match et après, j'ai l'impression que les Américains commencent à se rendre compte que tu sais, le narratif Rudy Gobert, on ne peut pas le mettre en playoff parce que défensivement, enfin, que ce soit en attaque ou en défense, il est exploitable. Il y en a plein qui commencent à retourner leur veste. En disant bah c'est peut-être qu'à Utah en fait ils jouaient avec Donovan Mitchell, Bogdanovic et que ça rendait la défense compliquée. Et
C'est
c'est ce
ça.
qu'on a c'est ce qu'on se tue à dire là-dessus sans vouloir forcément le porter au nu constamment, mais de dire que Rudy était injouable en playoff ou dans les matchs chauds, c'est totalement débile. Et là on le voit qu'avec des joueurs compétents voire très compétents en défense à côté de lui, dont McDaniels, dont Conley pour l'expérience, dont Edwards qui a l'énergie et le gabarit pour être très bon en défense aussi. Bah, ça change complètement la donne et Rudy, il a un rôle de dissuasion qui est. Enfin, il faut regarder les matchs, hein. Il pilote la défense, il dissuade. Alors oui, de temps en temps, il va se prendre un panier par un mec qui est super fort, forcément, mais je le trouve impressionnant aussi, voilà.
Ouais, c'est clair. Allez, pour finir, étonnamment, c'est comment dire, Phoenix a gagné la bataille du rebond sur ce match-là. Ça se joue à pas grand-chose, hein, 41 d'un côté, 39 de l'autre. L'autre donnée que je trouve intéressante, on en parlait et puis on en parlait avec vous aussi un petit peu dans les commentaires sur YouTube parce que vous nous trouviez un petit peu dur avec Karl-Anthony Towns. Karl-Anthony Towns qui a été bon, 12 points, 8 rebonds, qui a joué 24 minutes. J'ai l'impression que c'est un petit peu la bonne dose en fait de Karl-Anthony Towns
Exactement.
quelque part. Et j'ai l'impression que Chris Finch vraiment a trouvé quelque chose là dans la rotation. Alors je sais pas s'il lui dit que c'est parce qu'il est encore en train de revenir de blessure ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je trouve que c'est voilà l'utilisation des joueurs dans la rotation des Wolves est vraiment très juste.
C'est parfait, c'est exactement, tu as raison. Chris Finch fait un excellent travail. Avec Kat, donc nous on est un peu partisans du point trop n'en faut, mais là il l'exploite très très bien. Quand Kat est là, il est bon offensivement notamment, et avec tous les joueurs. C'est-à-dire que Naz Reid, alors là il n'était pas dans un grand soir, il joue 17 minutes, mais il apporte ce qu'il peut apporter. Et à côté de ça, il donne 30 minutes à Nikhil Alexander-Walker, dont on ne parle absolument jamais, mais
Exactement.
qui est un excellent joueur.
Ouais.
Il a encore montré cette nuit, tu vois, 10 points, 5 passes, plus 14, il a été extrêmement important. D'un soir à l'autre, ils arrivent à se passer un peu le flambeau sur qui va apporter le plus, qui va. Il y a des constantes, hein, évidemment, mais c'est ce que je trouve impressionnant avec cette équipe des Wolves et qui me donne beaucoup d'espoir pour eux, ne serait-ce que sur cette série déjà.
Ouais, en tout cas, nous on s'est régalé à nouveau. Ce soir, il y aura deux matchs. Donc, il y aura le match 2 du Heat face aux Celtics. Et il y aura le match 2 de la série Pelicans Thunder. On débriefera tout ça, bien sûr, demain dans le CQFR. Il y avait une autre information
Ouais.
importante quand même, Shai. Pour les trophées de fin de saison, la NBA a décerné donc le trophée de Most Improved Player. Est-ce que tu peux nous donner donc le vainqueur de cet award?
Ouais, il s'agit de Tyrese Maxey. Il faudrait qu'on regarde nos pronos de début de saison, mais je crois qu'on avait été pas mal à le citer comme au moins parmi les favoris et peut-être même comme favori. Bah quasiment du début à la fin, il est resté en tête, je pense, des estimations, des pronostics, parce que il a Il est passé du statut de joueur très prometteur, qui avait déjà commencé son éclosion, à un All-Star, tout simplement, dans une équipe qui a perdu le MVP de la Ligue en cours de route. Quand il était là avec Maxi, le tandem, c'était peut-être le meilleur de la Ligue à cet instant de la saison. Et il a réussi à quand même à maintenir un niveau, je trouve, plus qu'honorable et digne du statut de All-Star. Donc ça, je trouve que c'est une belle récompense qui est plutôt méritée. Après, je sais que Coby White, qui a fini deuxième, avait ses partisans, lui aussi a fait une très belle progression. Et Alperen Şengün, qui finit troisième, forcément, lui aussi, il y a une forme d'éclosion. Mais sur le bilan collectif, peut-être que du coup, Maxi a réussi à faire la différence. J'aurais bien aimé voir Jalen Johnson un peu plus haut, mais peut-être que ce sera pour l'année prochaine. Et voilà, le titre de MIP me semble assez mérité finalement pour Maxi, il n'y a pas de scandale.
Ouais, carrément, je partage. Mais effectivement, cette année, la course pour ce trophée était vraiment intéressante avec les quatre joueurs que tu as cités, quoi. Jalen Johnson, Alperen Şengün, Coby White et Maxi. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que parfois, ce trophée, je pense que pour Coby White, même s'il a été très bon tout du long, hein, vraiment, je pensais pas qu'il tiendrait sur la longueur. Il y a peut-être la question de savoir si c'était dû aussi au contexte, à voir si
Bien
maintenant, si
sûr.
Coby White pourra répéter ça. Şengün, très fort. Jalen Johnson, c'est vraiment l'une des révélations quand même, je pense, de la saison, parce que pour le coup, Tyrese Maxey, on savait qu'il y avait un gros potentiel. Jalen Johnson, j'avais pas vu le potentiel à ce point-là, quoi, personnellement.
Je mettrai une pièce sur lui pour le MIP 2025.
Ok. Et eh ben, très bien. Allez, on va refermer là. Oui,
Juste
vas-y,
un
vas-y,
petit
ça.
mot, j'y pense parce que après je vais oublier. Pendant que j'attendais une livraison ce matin, j'ai regardé le Hoop Culture que vous avez fait avec Pierre-Armand dimanche, un peu en retard, sur les sneakers, et je le recommande parce que c'est top, que Pierre-Armand est extrêmement animé et impliqué sur cette thématique, comme vous pouvez le savoir. Donc je vous conseille de regarder ça, je vous conseille vivement de regarder ça, et puis tous les autres programmes de la chaîne qui sont encore en ligne, hein, parce qu'il y a le podcast Théo qu'on a enregistré lundi sur la thématique Kyrie James Harden, le duel des mal-aimés. Donc le Hoop Culture dont je parlais, il y a l'entretien qu'on a posté hier aussi avec Judaichi sur les animés, Kuroko, tout ce qui est lié au Japon ou au sport. Voilà, c'était juste pour faire un petit coup de promo sur la chaîne si vous n'avez pas pris le temps encore d'aller regarder tout ça, tout est encore disponible. Voilà.
Ouais, absolument. Effectivement, les Hoop Culture spécial sneakers, là, Pierre Armand,
Ah,
il
il
a
était chaud,
sorti que
hein?
du lourd. Donc voilà,
Ouais.
si vous aimez bien les baskets, je pense que vous n'allez pas vous embêter en regardant cet épisode. Nous, on se donne rendez-vous dès demain. D'ici là, allez jeter un coup d'œil sur Basket Session. Il y a toutes les autres infos importantes, moins importantes, les sessions. Maintenant que vous avez bien pris le pli et le coup, allez regarder. Il y a plein de trucs à décortiquer. Puis nous, on se retrouve demain pour analyser les deux prochains matchs de la nuit prochaine. Ciao!
À demain!